mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine.
Bonjour aux auditeurs. Lors d'une précédente émission, tu nous avais annoncé des commentaires sur Dostoïevski et Proust, en particulier comment ils avaient mis René Girard sur la voie d'une anthropologie fondée sur le mimétisme.
L'aventure intellectuelle de René Girard commence avec son premier livre, « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Il y prend conscience de l'importance du mimétisme dans le comportement humain, en particulier le mimétisme du désir. Il pousse ce concept au-delà même du désir de posséder jusqu'au désir d'être. C'est la racine de l'anthropologie qu'il va développer. Cette prise de conscience du rôle du désir lui est apportée par les auteurs qu'il analyse dans son livre. Nous avons évoqué déjà le cas de Cervantes et de Stendhal. Nous pouvons aborder comment Girard interprète les œuvres de Flaubert, Dostoïevski et Proust.
Tu commences par Flaubert ?
C'est le roman Madame Bovary qui attire l'attention de Girard. Emma Bovary se trouve dans un schéma voisin de Don Quichotte. Celui-ci, imbibé de romans de chevalerie, se voulait un preux chevalier du Moyen-Âge. Emma, exaltée par la littérature romantique, rêve de passions sublimes et de grand amour. Elle se retrouve mariée à un médecin médiocre. Elle croit vivre la vie d'une héroïne romantique en s'engageant dans des liaisons adultérines qui ne débouchent que sur l'ennui et de sordides difficultés matérielles. Emma finit par se suicider.
Qu'est-ce que René Girard a tiré de cette histoire ?
D'abord, bien sûr, une confirmation de ce qu'il avait observé chez Cervantes et Stendhal, c'est-à-dire le mimétisme du héros principal. Un mimétisme que René Girard qualifie de métaphysique, car il ne porte pas seulement sur le comportement ou les objets à posséder, mais sur l'être même de la personne. Don Quichotte veut être un chevalier. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, veut s'imposer à la société, à l'image d'un Bonaparte. Emma Bovary cherche à incarner le modèle de l'héroïne qu'elle a lu dans les livres du romantisme. Aucun d'eux ne part à la recherche de lui-même. Chacun croit se trouver en imitant un modèle. Ensuite, comme Cervantes et comme Stendhal, Flaubert nous indique que cette attitude est vouée à l'échec. Don Quichotte meurt en abjurant son idolâtrie pour la chevalerie. Les ambitions de Julien ne le conduisent pas au bonheur, il ne le connaîtra que par le renoncement à ses ambitions. Quant à Emma Bovary, ses tentatives d'incarner l'héroïne romantique n'aboutissent qu'à l'ennui et au dégoût.
Flaubert n'amène donc rien de nouveau à la vision girardienne.
Si! Flaubert apporte l'idée que le désir mimétique est un enfermement. Aucun des personnages ne sort par lui-même de la fascination pour son modèle. Chez Cervantes, Don Quichotte prend conscience de son erreur et abjure son idolâtrie pour la chevalerie. Dans Le Rouge et le Noir, Julien prend conscience de la vérité de son amour pour Madame de Rênal et de la vacuité de ses ambitions. Flaubert refuse cette prise de conscience à Emma Bovary. Elle meurt sans s'être libérée de son enfer mimétique, sans comprendre pourquoi sa vie rêvée d'héroïne romantique s'est traduite par des adultères mesquins et ennuyeux. Son mari, le médiocre Charles, qui ne se doutait pas de ses infidélités, a passé sa vie en admiration devant sa femme. Il découvre la réalité après sa mort par ses correspondances. Cette révélation est un accablement, il est trop tard pour reconstruire quoi que ce soit. Girard diagnostique une évolution de l'ensemble de la société. Chez Stendhal, il est encore possible d'échapper au désir mimétique, au moins pour les héros. Avec Flaubert, 50 ans plus tard, ce n'est plus le cas. Chacun est enfermé dans son désir mimétique.
Tu nous parles de l'enfermement mimétique. Que voulait précisément dire Girard avec ce terme ?
C'est Dostoïevski qui va nous l'expliquer. Le romancier russe est connu pour ses romans de grande ampleur, Les frères Karamazov, Les possédés, L'idiot, Crime et châtiment. Mais c'est une œuvre brève qui attire l'attention de Girard. Écrit dans un sous-sol, elle date de 1864 et se présente comme le journal intime d'un homme envahi par le ressentiment, un fonctionnaire à la retraite et pourtant jeune, qui vit reclus dans un sous-sol. La deuxième partie de l'ouvrage revient sur sa 24e année. un épisode l'induit à chercher à se battre avec un officier qui le dédaigne. Dès lors, il rumine pendant des années une vengeance qui s'avérera dérisoire.
Quel enseignement Girard tire-t-il de ce récit ?
Pour Girard, c'est l'apparition des problèmes que nous rencontrons lorsque notre modèle est trop proche de nous. Don Quichotte était séparé des chevaliers par le temps, tout comme Julien Sorel de Napoléon. Emma Bovary s'imaginait incarner des personnages de roman. Aucune rivalité directe ne peut s'établir. Par contre, le narrateur du sous-sol rencontre et croise régulièrement son modèle mimétique, l'officier. Là est la différence. L'homme du sous-sol trouvait son entourage décevant. Rien ni personne ne lui apportait de satisfaction. Il rencontre cet officier qui le fascine. Pour Girard, c'est la rencontre d'un modèle mimétique. Le narrateur se met à envier son être même. Il veut être comme lui, il veut être lui. La volonté de l'affronter en duel est l'expression symbolique du désir de s'emparer de son être. Mais l'officier le dédaigne, et ce faisant, il donne au narrateur prétexte à s'enfermer dans le ressentiment.
Comment cela ?
Le narrateur se sent supérieur à tous les autres, il les méprise. Voilà qu'il croise quelqu'un qui lui inspire de l'admiration. Il voudrait que celui-ci le reconnaisse comme supérieur aux autres, lui confirme sa supériorité. Or, l'officier fait à peine attention à lui. Le narrateur se met à envier l'officier, à le haïr et à se venger de lui, mais sans cesser de l'admirer, sans cesser de le conserver comme modèle mimétique. C'est un piège, un cercle vicieux sans issue, car plus l'officier le dédaigne, plus son prestige s'accroît aux yeux du narrateur.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce qu'en le dédaignant, l'officier se montre indifférent à la concurrence avec les autres, à la rivalité mimétique.
Vas-tu nous parler de Proust maintenant ?
Proust est en effet le cinquième auteur sollicité par René Girard dans le livre où il commence à élaborer son anthropologie mimétique, Mensonges romantiques et vérités romanesques.
Juste une petite question avant d'attaquer sur Proust. Que signifie ce titre ? Tu l'as souvent cité, mais sans en expliquer le sens.
L'époque romantique a particulièrement exalté le désir. Tout doit être soumis à la passion. Et ce désir est considéré comme autonome, comme l'expression la plus vraie de la personnalité profonde de chacun. La vision de Girard est à l'opposé de cela. Il pense que le désir est mimétique et donc que la conception romantique est fausse, d'où le premier terme du titre « mensonge romantique ». Girard constate aussi que de grandes œuvres romanesques, celles précisément que nous commentons, vont à l'encontre de la conception romantique et révèlent au contraire le mimétisme du désir. Girard pense que la vérité anthropologique est de ce côté, d'où le deuxième terme du titre « vérité romanesque ».
Revenons à Proust.
Proust est bien du côté de la vérité romanesque, selon Girard. À la recherche du temps perdu, décrit le cheminement d'un narrateur à la fois témoin et victime du désir mimétique. Comme dans Madame Bovary, ce désir mimétique est partout présent et constitue le ressort caché de tous les comportements. Proust excelle en particulier à décrire le désenchantement qui s'abat sur celui qui, saisi par un désir mimétique, voit ce désir exaucé. Je citerai simplement l'anecdote de la cantatrice. Une cantatrice à la mode va donner un concert, et le narrateur aspire à aller l'entendre, car de tous côtés, on lui raconte qu'elle chante de façon sublime, d'une façon telle qu'on ne peut le comprendre qu'en l'entendant. Après moult complications, le narrateur, de santé fragile, est autorisé à assister au concert. Cette lutte pour entendre la cantatrice rehausse encore sa conviction qu'il va vivre un moment exceptionnel. Or, il est déçu par le concert. Il ne ressent rien de sublime, ne se sent pas transporté au-delà de lui-même. Ce constat le tourmente, et Proust décrit comment petit à petit, il en vient à corriger sa première impression, à se dire que le chant était sublime, mais que c'est lui qui n'a pas su l'apprécier. Bref, il remet en cause sa propre perception pour épouser une opinion qu'il ne partage pas spontanément. Jamais le conformisme social, effet majeur du mimétisme, n'aura été décrit de façon si précise et si aiguë.
Jean-Louis, notre émission touche à son terme. J'imagine que beaucoup pouvait être encore dit sur Proust.
Oui, mais pour notre survol girardien, l'essentiel est de saisir comment Girard a puisé dans ses auteurs l'intuition première de son anthropologie, celle du mimétisme des désirs, y compris du désir existentiel.
Au revoir Jean-Louis.
Au revoir Catherine. Au revoir aux auditeurs.